Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi 4 décembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'assassinat d'un scientifique iranien est un signe de l'échec des ennemis jurés de la nation iranienne, a souligné le président Rouhani. Valéry Giscard d'Estaing avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la révolution islamique en Iran, selon l'ambassadeur d'Iran en poste à Paris. La Russie appelle les participants au processus d'Astana à intensifier leurs efforts pour résoudre la crise en Syrie. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien a déclaré que le récent assassinat d'un scientifique iranien par des éléments pressionnistes était un crime grave et inhumain visant à freiner la marche du pays vers le progrès scientifique. Mohsen Fakhrizadeh, chef du département pour l'innovation et la recherche au sein du ministère iranien de la Défense, a été la cible d'une attaque terroriste à plusieurs volets perpétrés par un certain nombre d'assaillants dans la ville d'Absard, dans la ville de Damavand, dans la province de Téhéran. Cet attentat terroriste a été commis le 27 novembre. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé avoir identifié les personnes impliquées dans cet assassinat de terroristes. Sans aucun doute, cet incident terroriste est un signe de l'échec des ennemis jurés de la nation iranienne à contrecarrer le mouvement scientifique et de recherche lancé par nos scientifiques, a déclaré le président Rouhani lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Rouhani a souligné que l'Iran se réserve le droit de venger la mort en martyr de ce grand savant nucléaire iranien en temps voulu. L'assassinat de ce scientifique est un crime grave et un acte inhumain, a-t-il souligné. Le président Rouhani a indiqué et a mis l'accent sur l'importance de la coopération en cours entre l'Iran et la Turquie voisine, tout en disant les Les deux pays sont déterminés à développer des relations économiques et commerciales, mais malheureusement, les sanctions américaines nous ont empêchés de le faire et ne nous permettent pas de poursuivre la coopération commerciale, économique et bancaire de manière simple. Le président Rouhani a souligné la nécessité d'une plus grande convergence et collaboration entre l'Iran et la Turquie, en particulier sur les questions d'intérêt international, en disant « l'Iran et la Turquie peuvent réduire les divisions dans le monde musulman grâce à des consultations et à la coopération et peuvent inviter l'Umma islamique à l'unité ». Le président turc Recep Tayyip Erdogan, pour sa part, a exprimé ses condoléances au gouvernement et à la nation iranienne pour l'assassinat de M. Fakhrizadeh, a également exprimé ses condoléances à sa famille tout en condamnant vigoureusement cet acte de terrorisme. Il ne fait aucun doute que cette attaque terroriste a visé la paix et la tranquillité dans notre région, a déclaré le président Erdogan. Il a exprimé l'espoir que les auteurs de cet assassinat seront identifiés dès que possible et traduits en justice. J'espère que le complot éclore par les cernes qui veulent sommer l'instabilité dans notre région seront contrecarrés, a-t-il souligné encore. En réaction aux remarques sans fondement du ministre d'État saoudien des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que chaque groupe terroriste de notre région était diplômé et financé par l'Arabie saoudite. Dans un tweet jeudi, Saïd Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne, a écrit « Pendant des décennies, le wahhabisme nourrit par les puissances coloniales, a été la source du sectarisme, de la haine et du terrorisme dans notre région et au-delà », a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Valéry Giscard d'Estaing avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la révolution islamique en Iran, a souligné l'ambassadeur d'Iran en poste à Paris. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, fut l'un des rares en politique européen à être connu pendant la révolution islamique en Iran. Notre dernière rencontre s'est déroulée en février 2019 avant le Covid-19 et puis par des échanges de courriers. Cet homme politique disparu avait un esprit vif et des connaissances approfondies concernant la révolution islamique en Iran et l'arrivée en France du fondateur de la République islamique d'Iran et son séjour à Nofle-le-Château et les évolutions délicates de cette période, a écrit sur son compte Twitter Bahram Brassami, l'ambassadeur d'Iran en poste à Paris. La Russie appelle les partisans au processus d'Astana à intensifier leurs efforts pour résoudre la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les parties participantes au processus d'Astana à intensifier les efforts pour régler la crise en Syrie. Dans un point de presse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dit « Nous considérons la poursuite des travaux du comité de débat de la Constitution comme une preuve de l'efficacité des efforts conjoints déployés par les pays participants au processus d'Astana pour résoudre la crise en Syrie. » Des experts de l'ONU demandent à Paris de revoir sa copie sur la voie dite de sécurité globale. La proposition de loi dite sécurité globale, dont un des articles concentre de très vives critiques, semble aller à l'encontre des engagements internationaux de la France en matière des droits de l'homme, ont estimé des experts de l'ONU. S'ils se disent satisfaits de l'annonce selon laquelle le Parlement vont entreprendre de réécrire l'article 24 le plus controversé. Ces experts indépendants auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU considèrent qu'il faut aller plus loin et repenser l'objectif de la proposition de loi dans son ensemble. Et pour terminer, chez le journal d'information, le président de transition malien, Akhbar Endaoua, a publié dans un décret présidentiel de la liste des 121 membres du Conseil national de transition. La mise en place de ce dernier organe de la transition faisait l'objet d'un bras de fer entre les autorités en place et une partie de la classe politique, notamment le mouvement du 5 juin. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran et l'Afghanistan renforcent leur coopération bilatérale, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. La première cargaison d'exportation de provenance d'Iran est arrivée en Afghanistan via le chemin de fer Khawfe-Herat, étant attendu qui devrait être officiellement inauguré dans les prochains jours pour stimuler le commerce afghan. Situé sur la frontière orientale de l'Iran, le chemin de fer reliera l'Afghanistan aux pays asiatiques et européens via l'Iran. Cité par l'IRNA, un responsable local a déclaré, c'était le mercredi 2 décembre, que la première cargaison iranienne avec à sa charge 500 tonnes de ciment est arrivée en Afghanistan via le chemin de fer Khawfe-Herat. L'envoi a été expédié à titre d'essai afin d'identifier les problèmes et des difficultés éventuelles sur cette route, selon Gilani Farhad, le porte-parole du gouverneur de Herat. Le chemin de fer qui doit être ouvert dans moins de 10 jours par les hauts fonctionnaires des deux pays reliera l'Afghanistan à l'Europe via le réseau ferroviaire Iran-Turquie, mais aussi au port du sud de l'Iran, à l'Asie centrale et au Caucase, voire à l'Irak. Les citoyens afghans qui regardaient l'arrivée du train ont dit qu'ils étaient très heureux de voir un train dans leur lieu de vie pour la première fois. Ils ont dit qu'ils coopéraient de tout cœur avec les forces de sécurité afghanes pour assurer la sécurité de la voie ferroviaire et les envois d'exportation, estimant que le chemin de fer va certainement améliorer les conditions économiques des Afghans. Le chemin de fer est composé de 4 tronçons mesurant chacun de 76 kg de long. L'un de Khawf à Sangor en Iran et le second de Sangor au poste frontière Sheikh de Sorkh, a précisé le porte-parole afghan. Selon le gouverneur de la ville de Khawf, dans la province de Khorasan et Razavi, au nord-est de l'Iran, 4200 milliards de rials ont jusqu'à présent été dépensés pour les trois de tronçons de chemin de fer reliant Khawf en Iran à Herat en Afghanistan. Mais compte tenu des évolutions économiques et de l'augmentation des coûts, la valeur du capital investi est aujourd'hui estimée à 20 000 milliards de rials, offrant une capacité d'exportation annuelle de 12 millions de tonnes de marchandises. L'exploitation de la voie ferroviaire Khawf-Herat joue un rôle important dans l'augmentation des exportations et des importations, a-t-il souligné. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cet attentat terroriste qui a coûté à un savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Après là, ce savant nucléaire iranien, c'est en fait les autorités militaires, les autorités géopolitiques ont souligné sur la nécessité de se venger, de venger la mort en martyr de ce savant nucléaire iranien, M. Fakhrizadeh. Les parlementaires iraniens ont voté, ont approuvé un plan de double urgence qui enjoint au gouvernement iranien d'accélérer le processus des activités de nucléaires iraniennes si les parties signatrices de ce qu'on appelle l'accord nucléaire iranien de 2015 refusent toujours d'honorer leurs engagements pour la levée des sanctions pour la vente du pétrole iranien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Pour entamer notre débat d'aujourd'hui, on va partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre un spécialiste français des questions internationales qui est avec moi au téléphone. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Nerostine. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous les téléspectateurs. Et vraiment, un grand merci de nous avoir invités pour cette grande affaire là, de l'assassinat de M. Fakhrizadeh.
Merci. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet après cet assassinat. L'Iran dit de s'arroger le droit de riposte. L'Iran qui a mobilisé ses moyens politiques. Je viens de faire allusion tout à l'heure à ce plan de double urgence qui avait été voté par les parlementaires iraniens. Et également de s'arroge le droit sur le plan militaire. Je viens de faire allusion à cette prise de position des autorités militaires iraniennes, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Salami, le ministre iranien de la Défense, le général Hatami, qui, après cet assassinat, ils ont insisté sur la nécessité de riposter, de fournir une riposte digne de nom foudroyante à cet assassinat. Et comment expliquez-vous, en fait, cette prise de position du côté de Téhéran en ce qui concerne, si vous voulez, les responsables politiques et militaires, M. Dortiguier ?
Il est entendu qu'il est tout à fait normal, disons, que l'attentat contre ce physicien soit compris, justement, comme une attaque de l'Iran même. C'est-à-dire attaque contre sa volonté de défense, de se défendre, de se perfectionner dans ce sens-là, non seulement dans le domaine atomique, comme on le dit, mais également d'autres domaines, dans s'occuper de grands physiciens en question, à savoir la lutte, la défense anti-aérienne, et ainsi de suite. Mais ceci, c'est un aspect que je dirais être extérieur, tout à fait normal. C'est une réaction nationale, disons, à une atteinte portée à la nation, à l'intégrité de la nation, à la sécurité de la nation. Il y en a un deuxième que j'évoque très rapidement, M. Nerostine. C'est, je dois dire qu'ayant suivi une actualité depuis déjà le début des années 2010, j'ai observé que ces attentats dirigés contre des ingénieurs de haut rang iraniens, je me souviens de trois d'entre eux, de trois attentats en tout cas, contre leur voiture avec des moyens perfectionnés et autres, supposent qu'il y a aussi, impliquent qu'il y ait des organisations intérieures qui soient disons, capable de couvrir ceci, disons, et donc il semble qu'il faille que le corps iranien doive avoir deux yeux, un tourné vers l'extérieur du pays et l'autre tourné à l'intérieur du pays, car la sécurité extérieure dépend également de la sécurité intérieure et vice-versa.
Mais la sécurité intérieure, M. Dortiguier, est pleinement assurée. Qu'entendez-vous par, en fait, de cette sécurité intérieure, M. Dortiguier ?
Bien sûr, elle est assurée sur le plan formel, nous n'en doutons pas. Mais il est certain qu'il y a, à notre avis, c'est le sentiment en tout cas que nous avons eu dès le début de ces premiers attentats d'autrefois, qu'il y a, disons, que l'audace des adversaires de l'Iran, audace incarnée par exemple par M. Netanyahou qui avait cité le nom donc, de M. Farizadeh en disant qu'il fallait retenir ce nom, vous vous souvenez de cela, je crois que c'est en 2018 qu'il a dit, eh bien ils ne peuvent avoir cette insolence que s'ils savent pouvoir compter sur une minorité, que je dis minorité, disons sur l'existence de groupes qui peuvent, disons, sans lesquels une telle agression, disons, ne serait pas possible. Et je crois que sans cela, les adversaires de l'Iran n'auraient pas cette insolence. Donc la sécurité intérieure signifie, que je pourrais traduire ainsi, signifie qu'il faut également avoir, non pas un regard répressif, mais un regard attentif contre des groupes, bien sûr, ou des gens qui, finalement, ont vendu leur âme au diable, vous savez, c'est-à-dire sont des traîtres. Bien, écoutez, il n'y a pas d'autre mot, hein, même qu'il y a des vivants et des morts, il y a des patriotes, il y a des traîtres. Et je dois dire que l'audace des ennemis de l'Iran, disons, joue là-dessus. Et je dois dire que c'est ce qui fait leur insolence, c'est ce qui fait que M. Netanyahou, par exemple, a pu même, voyez-vous, brandir le nom de ce physicien martyr. C'est quand même
là, vous faites allusion, Monsieur Dortiguet. Là, vous faites allusion. Là, Monsieur Dortiguet, vous faites allusion aux actes de sabotage qui sont menés en fait depuis la victoire de la révolution islamique d'Iran de 1979 par les États-Unis et leurs alliés, très particulièrement le régime israélien. Vous faites allusion à ce point.
Ce sont des actes de sabotage et nous savons que c'est continu, que depuis la victoire, c'est-à-dire cette victoire de la révolution n'a jamais été acceptée et à travers elle. Ils ne cherchent pas, comme ils disent eux-mêmes, un changement de régime seulement. Ce n'est pas le régime qu'ils appellent clérical ou autre. Ce n'est pas ça qui les touche. Ce qui les touche, c'est la capacité d'indépendance et la puissance présente et future de l'Iran. Alors là, ils peuvent trouver tous les arguments possibles et imaginables, mais en fait, c'est la puissance. Donc, ils en veulent non pas à la forme du gouvernement iranien, mais ils en veulent à l'existence même du pays.
Merci beaucoup, monsieur Eliatem, juriste français spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour cette émission Le Débat par Skype depuis Paris. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation et bonjour à monsieur Dortiguet.
Maître Atem, venez d'entendre les explications de monsieur de Dortiguet de l'Iran. En fait, à mobiliser de ses moyens politiques et diplomatiques et également, au cas échéant, mobilisera ses moyens militaires pour riposter à cet assassinat lâche de ce savant nucléaire iranien, M. Farizadeh. Autrement dit, l'Iran est déterminé à punir les auteurs et également les commanditaires de cet assassinat de lâche terroriste. Comment vous l'expliquez? Quelle évaluation portez-vous sur cette détermination du côté de Téhéran, Maître Atem, s'il vous plaît?
Vous savez, cet acte-là, c'est un acte terroriste. Deuxièmement, il faut, d'un point de vue juridique, il constitue une agression telle que l'agression est définie par la résolution du Conseil de sécurité et particulièrement plutôt de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceci dit, pour chaque acte d'agression, on peut avoir un recours, je dirais, juridique devant les juridictions internationales et devant les Nations Unies. Alors, le problème qui se pose, malheureusement, et c'est moi qui le dis, parce que du fait de ma proximité de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Ghali, malheureusement, le droit international public n'est plus respecté et c'est son existence même qui est mise en cause. C'est le retour, malheureusement, à la jungle internationale parce que nous voyons les choses telles quelles sur la scène internationale quand on voit les agressions, par exemple, américaines, par-ci, par-là, les agressions des alliés des États-Unis, que ce soit Israël, que ce soit la Turquie, qui aujourd'hui également menace l'Est de la Méditerranée. Et il n'y a jamais de sanctions à l'encontre de ces actes-là et des auteurs de ces actes-là parce qu'ils sont proches des États-Unis, parce que les États-Unis exercent une hégémonie sur l'organisation mondiale, ce qui fait que le droit international public n'est malheureusement plus appliqué. C'est ce qui conduit à des ripostes, je dirais des représailles qui sont prévues également par le droit international public, ce qui explique également la position iranienne. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est que les téléspectateurs et les analystes, les observateurs doivent comprendre de cette réalité, qu'aujourd'hui, quand je le disais et quand je le dis, on me traite de complotiste, mais c'est la réalité sur le terrain. Il y a un travail d'organes, de machines, des services secrets qui opèrent dans la région du Proche et du Moyen-Orient, que ça soit en Iran et ailleurs. Vous savez, l'Iran quand même est un État qui est doté d'institutions assez fortes. C'est un pays où vraiment on compte, on fait ses comptes avant de faire un acte, de commettre un acte sur place. Alors que dire des autres pays? Et c'est ce que justifie, par exemple, quand j'expliquais l'attentat qui a été commis, l'explosion à Beyrouth, l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre, qui ont été faits par les services secrets, par le Mossad israélien, qui a des moyens sur les terrains et qui dispose d'agents sur le terrain. Quand on voit que le Mossad a disposé d'une complicité à l'intérieur même de l'Iran, que dire alors du Liban? Que dire de la Syrie? Que dire des autres endroits de la région? J'appuie également, et si vous le permettez sur ce point-là, Monsieur Dortiguet, c'est que l'objectif américano-israélien, ce n'est pas le changement d'un régime, soit en Iran ou en Syrie ou au Liban, mais c'est la création du chaos et c'est la provocation de la régression de ces civilisations et ces pays qui sont millénaires pour pouvoir les dominer et les soumettre, car c'est là le projet du judaïsme politique et donc du sionisme et des alliés de ce courant politique, c'est soumettre les gens. Nous l'avons vu également aujourd'hui avec cette politique de normalisation avec l'entité sioniste, c'est que tout a été fait pour soumettre ces pays. Et encore une fois soumis, on finit par leur trancher la tête. C'est ce qu'avait dit à l'époque, d'ailleurs, Donald Trump en parlant de l'Arabie Saoudite. C'est comme une vache à traire. On prend son lait et une fois qu'elle n'a plus de lait, on lui tranche la tête. Eh bien, ça, c'est l'objectif de la politique israélo-américaine, je ne dirais pas américano-israélienne, parce que la politique étrangère américaine est téléguidée par le lobby sioniste qui est dans son intérêt de détruire, de soumettre l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient après les avoir provoqués chez eux une régression qu'on la voit aujourd'hui sur le terrain, problème de pauvreté, problème économique, problème financier. Et puis, ce qui justifie également l'existence d'agents qui vont travailler pour le compte des services américains ou les services israéliens et commettre ces crimes.
Maître Atem, venez en fait de l'évoquer tout à l'heure. Voilà, l'objectif, c'est de créer le chaos au Moyen-Orient. Et l'idée ne date pas, Maître Atem, d'aujourd'hui ni d'hier, mais ça date d'avant-hier, Maître Atem. L'idée en était surtout abordée par la secrétaire d'État américaine de l'époque, Condoleezza Rice, en disant que voilà, la politique américaine consiste en fait à créer un chaos constructif dans la région du Moyen-Orient. Maître Atem, étant parfaitement conscient de ce point auquel venait en fait de faire allusion, l'Iran dit être déterminé à punir les auteurs, également les commanditaires, j'insiste sur le mot commanditaire, de cet assassinat terroriste qui a coûté la vie à ce savant nucléaire iranien, Maître Atem.
Oui, effectivement, c'est que ce qu'il faut, vous avez très bien mis l'accent sur il ne faut pas punir l'exécutant, mais c'est le commanditaire, c'est-à-dire celui qui est derrière, celui qui provoque. Et je prends peut-être un petit exemple de ce qui se passe en Europe. En Europe, en particulier en France, il y a des actes de terrorisme qui sont commis par des types qui sont, qu'on les retrouve, la plupart du temps on les exécute, on les attrape pas vivants, je ne sais pas pour quelle raison, et sinon on les condamne, mais on ne cherche pas qui sont leurs commanditaires. Autrement dit, qui est la personne qui est derrière et qui les pousse à provoquer ces actes-là de terreur. Parce que le terrorisme, c'est un acte de terreur qui fait peur et qui exerce une pression sur des gouvernements, sur des États, sur des décideurs, afin qu'ils prennent soit des décisions qui sont en faveur de la personne qui provoque ces actes-là, ou bien ne pas prendre certaines décisions. Et d'ailleurs, on voit, c'est pour cette raison d'ailleurs, que si vous le permettez, je reviens à ce qu'a dit M. D'Artiguet, c'est très intéressant, c'est qu'en Europe, en particulier en France, on exerce deux types de terrorisme. Il y a le terrorisme matériel, c'est-à-dire ces actes, soit des explosions, des attentats, soit des meurtres attribués à des terroristes qui exercent cette peur, cette crainte sur les décideurs politiques, ou bien il y a également, je dirais, un arsenal juridique et surtout aussi médiatique qui crée un terrorisme intellectuel et un terrorisme psychologique qui fait peur à certains. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si vous avez bien noté, c'est que en Europe et en France en particulier, on a très peu évoqué cet acte terroriste qui a conduit à l'assassinat de M. Varizadeh en Iran. Pour quelle raison? Parce que les médias en France sont placés sous le contrôle d'un certain lobby, de certains groupes de pression qui gomment en fait certaines informations. Alors ça n'aurait pas jamais été pareil s'il y avait un responsable israélien assassiné dans l'entité, au sein de l'entité israélienne ou l'entité sioniste, par un Palestinien. Tout cela pour vous dire, et on m'a traité de complotiste, on a monté toute une cabale contre moi parce que j'ai évoqué cela sur une chaîne de télévision et parce que j'ai dit la vérité, c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs publics en Europe, en France et puis dans le monde en fait occidental qui est sous le joug de ces groupes de pression ont peur, sont sous ce poids terroriste, je dirais, psychologique ou bien matériel avec ces actes-là, qui lui font reculer. Et cela qui a une conséquence également sur les institutions et les instances internationales qui malheureusement ne font plus leur travail, ce qui justifie cette décision iranienne d'avoir recours à des moyens de riposte pour pouvoir, d'une manière proportionnelle, établir et cet équilibre et répondre en fait à cet acte d'agression dont ils ont fait, dont ils ont été victimes.
Maître Eliatem, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Mes vifs remerciements vont également à Pierre D'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Parole d'experts.
Une vidéo publiée le 23 novembre par les San Diego National Laboratories montre un chasseur USA F-35 qui, volant à vitesse supersonique à 3000 mètres d'altitude, lance une bombe nucléaire B-61-12. Le programme du Pentagone prévoit la construction d'environ 500 B-61-12 pour un coût estimé d'environ 10 milliards de dollars. Il a été officiellement annoncé que la production en série de la nouvelle bombe nucléaire commencera dans l'année fiscale 2022. Ces bombes seront stockées par les Américains en Italie, Allemagne, Belgique et Pays-Bas pour remplacer les B-61. Quelles seront les conséquences et les dangers de cette décision américaine pour la population en Europe ? Pierre D'Ortiguier, politologue et analyste politique, nous répond.
qui se résume en un mot, c'est-à-dire de se maintenir en Europe par la modification, même au besoin, la modernisation de leur armement atomique, est une chose qui ne peut pas surprendre les Européens, puisque vous savez que les deux guerres mondiales ont été marquées par l'entrée des États-Unis dans la sphère européenne. Bien. Et cette entrée a été évidemment consolidée, si je puis dire, par la guerre froide et d'autres arguments, c'est-à-dire que ce qui faisait en somme ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre mondial, voyez, le globalisme, c'était justement une certaine américanisation de la vie. Et c'était, on utilisait le modèle américain comme modèle, disons, de consommation et un peu de prééminence de ce qui était le besoin économique, le besoin de consommer sur des objectifs proprement politiques. Et on peut dire que, de ce point de vue, nous n'avons pas pu, en Europe, par exemple, imposer un modèle européen de vie ou le consolider. Il ne s'agit pas de le créer, puisque les grandes civilisations reposent sur un acquis, évidemment, mais on peut, disons, consolider, améliorer. C'était le projet de nos présidents. Je parle de, comme aujourd'hui nous avons appris la mort de Valéry Giscard d'Estaing, qui était un ami du chancelier Schmitt, cette coopération franco-allemande, par exemple, qu'il avait initiée à l'époque, ou développée, fortifiée, était chargée justement de produire un système de défense autonome, voyez-vous, mais qui réponde aux intérêts propres, aux intérêts stratégiques, aux intérêts géopolitiques de l'Europe, et non pas soit au service d'une politique beaucoup plus vaste, mais qui était une politique dont le centre était, évidemment, comme vous l'avez dit, les États-Unis, et avec les États-Unis, ses clients, ou on dit les clients ou les patrons, l'histoire tranchera, que ce soit l'entité sioniste ou les clients, voyez-vous, de celle-ci. Parmi les clients de cette entité sioniste, les Américains, nous avons les pays du Golfe, par exemple, qui ont joué un très grand rôle chez nous, dans le déclin de l'Europe, avec l'arrivée de M. Mitterrand, par exemple. Nous avons souscrit beaucoup de dettes à leur encontre pour pouvoir favoriser une politique de consommation qui était assez déraisonnable, qui était un peu démagogique avec Mitterrand. Et les États-Unis, pendant ce temps-là, ont maintenu, bien sûr, leur emprise sur nous, d'autant que les fameuses discussions entre les États-Unis et l'Union soviétique, ou ce qui restait après de l'Union soviétique, sur le désarmement, qui était le propre de l'époque Gorbatchev ou de l'époque même de Brejnev, se sont dissipées. Et je dois dire que nous jugeons comme extrêmement préoccupant le fait qu'il n'y ait aucun accord ou tentative d'accord ou perspective d'accord de diminution, par exemple, des armements atomiques, par exemple du nombre de fusées, etc. C'était une chose à laquelle nous étions habitués, par exemple, à l'époque de la présidence de Reagan, pour donner un exemple. Aujourd'hui, comme vous remarquerez, tout ceci est effacé. C'est-à-dire, on estime normal que les Américains, aient une certaine, effectivement, à l'évidence, disons, une supériorité. Bon, nous ne contestons pas une supériorité américaine sur le plan technique et autres, mais disons, celle-ci fait que nous sommes à la traîne, si je puis dire, de toutes leurs décisions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'indépendance proprement militaire, si nous sommes, disons, nous devenons les objets possibles, et malheureusement, je crois que l'histoire pourrait peut-être le vérifier, d'un conflit. C'est-à-dire, imaginez un conflit, par exemple, entre les deux grandes puissances, il ne faut pas se leurrer, entre la Russie, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. C'est une hypothèse qui n'est pas folle. C'est une hypothèse que chacun peut formuler, par exemple. Eh bien, l'Europe servirait de champ de bataille, effectivement. Nous serions complètement que l'Europe, le Proche-Orient, tout ceci, disons, serait ravagé. Et certainement, la lutte entre ces deux puissances se ferait sur des terrains, disons, des terrains neutres. Des terrains qui ne leur appartiennent pas, sur lesquels ils ont de l'influence, voyez-vous, mais nous serions
un enjeu de dispute entre deux grandes puissances, sans avoir la capacité ou bien de nous retirer du jeu, ou bien d'imposer un équilibre qui corresponde à l'ordre des choses. Voilà exactement, disons, ce que nous déplorons dans cette attitude américaine. Est-ce que cette attitude américaine va changer? Est-ce que ce soit par l'élection qui est contestée, vous savez, de Joe Biden? Nous ne le croyons pas. Nous pensons qu'il y a un poids trop fort, une inertie, si je puis dire, hein, comme une sorte de forte inertie en physique, vous voyez, qui appartient à ce fameux groupe militaro-industriel aux États-Unis, et qui fait que nous avons, je dois dire que, en conclusion, que si les Américains en sont là, à être nos patrons permanents, eh bien nous le devons bien sûr à cette fameuse période de 1917, par exemple. Nous avions la possibilité de conclure un traité de paix avec l'Allemagne, et avec le deuxième empereur, celui qui a succédé à François Joseph. De fille à Paris, était témoin d'une conversation entre son oncle et Clémenceau. Clémenceau a dit, moi je m'en fous, je m'excuse de l'expression, je joue la carte américaine. Et bien ceux qui ont joué la carte américaine en 1917 pour continuer le conflit sont responsables de notre état d'asservissement.
Merci.
Mazandaran, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Coopération médiatique d'un monde multipolaire. Le cinquième forum des médias des BRICS a eu le mérite de remettre à l'ordre du jour une orientation forte importante d'interaction entre les puissances composant le groupe, celle d'une coopération accrue dans le secteur médiatique. Le tout à une période cruciale des défis géopolitiques, géoéconomiques, sécuritaires et sanitaires. La cinquième réunion du présidium du Forum des médias des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a été tenu lundi par visioconférence. Les participants se sont engagés à unir leurs efforts pour améliorer le mécanisme du forum et intensifier les échanges et la coopération entre les médias des BRICS dans l'ère post-Covid-19. Le président et rédacteur en chef de l'agence de presse gouvernementale chinoise Xinhua, He Ping, par ailleurs président exécutif du Forum des médias des BRICS, a noté que dans le contexte de changements importants jamais vus depuis un siècle, les médias des BRICS devraient saisir la tendance de l'histoire et agir en tant que facilitateurs pour un développement pacifique. Il a également exhorté les médias des pays BRICS à connaître la tendance générale du développement mondial afin d'être des narrateurs de l'histoire des BRICS, à suivre les tendances de l'évolution des médias pour être des leaders du développement novateur et à mettre pleinement en valeur les avantages de la coopération des nations BRICS en vue d'être ceux qui poursuivent la coopération pragmatique. Pour Trost Matsilele, professeur de journalisme à l'Université de technologie de la péninsule du Cap en Afrique du Sud, cité par l'agence chinoise, les médias des BRICS doivent également contribuer à promouvoir les échanges culturels entre les pays membres de l'organisation. Toujours selon cet expert, les médias jouent un rôle dans la mise en avant auprès du public de l'unicité culturelle des pays des BRICS et que la promotion des échanges culturels entre les pays membres contribue également à renforcer davantage les relations économiques et commerciales. En termes de perspective, si le concept de la coopération sur les plans médiatiques et informationnels au sein des BRICS est loin d'être nouveau, désormais, l'heure est vraisemblablement au renforcement des actions conjointes. Et ce, pour plusieurs raisons. Parmi elles, on retrouve évidemment la nécessité de la poursuite du renforcement de l'interaction entre les pays des BRICS dans le cadre de projets aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Pour autant, il ne faut pas oublier également la nécessité d'assurer une réponse médiatique forte et coordonnée aux attaques informationnelles qui continuent de viser aussi bien les pays BRICS que toutes les nations partisanes de la multipolarité, notamment de la part du mainstream médiatique occidental. En effet, que ce soit du côté de nombre de médias occidentaux anglophones comme francophones, la tendance ne change pas. Il suffit d'ailleurs pour cela d'observer nombre de reportages réalisés par les représentants du mainstream, ne serait-ce que sur l'exemple de sujets liés à la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud ou l'Inde, visant à donner une image si souvent déformée sur la réalité des pays concernés. Mais plus que cela, à nuire aux intérêts géopolitiques, géoéconomiques, sécuritaires des dites nations. Il n'empêche que la donne a changé. D'ailleurs, nombre de journalistes et d'analystes de grands médias régionaux, continentaux et internationaux l'affirment avec certitude. Pour les panélistes de la grande chaîne panafricaine Afrique Média TV, il est aujourd'hui devenu clair que la peur a changé de camp. Et c'est assez logique. Si l'Occident médiatique pouvait longtemps effectivement se vanter de dominer l'espace informationnel international, désormais plusieurs des médias internationaux, dits alternatifs, dépassent en popularité et appréciation leurs concurrents occidentaux. Et ce, aussi bien en Eurasie, en Afrique ou en Amérique latine. Et plus que cela encore, si les attaques informationnelles de l'Occident, bien souvent avec le soutien de ses élites politiques, ne baissent aucunement en intensité, il s'agit effectivement aujourd'hui de la peur pure et simple de voir les partisans de la réalité multipolaire mondiale s'unir et renforcer l'interaction conjointe. D'autant plus que pour ces derniers, tous ensemble, il s'agit ni plus ni moins d'une majorité évidente du globe terrestre. Si l'alliance des puissances non occidentales est devenue évidente sur la scène géopolitique internationale, l'alliance médiatique et informationnelle constitue également, et sans le moindre doute, une source d'inquiétude majeure pour les nostalgiques de l'unipolarité révolue.